Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'écrivain Albert Memmi était issu d'une famille pauvre du ghetto juif de Tunis. Un père bourrelier, une mère berbère, analphabète. Laïque, convaincu, il se disait profondément tunisien. Il avait pourtant quitté son pays natal après l'indépendance, considérant qu'il n'y avait plus sa place. Albert Memmi avait également beaucoup écrit sur le rapport entre colonisateurs et colonisés et publié en pleine guerre d'Algérie « Portrait du colonisé » préfacé par Jean-Paul Sartre. Albert Memmi est mort à Paris au mois de mai. Nous évoquons sa mémoire avec l'universitaire tunisien Habib Kazdarli. Nous sommes en ligne depuis Tunis avec Habib Kazdarli. Bonjour monsieur.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tunis Manouba, vous êtes actuellement directeur du laboratoire de recherche Régions et ressources patrimoniales après avoir été doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités pendant deux mandats de 2011 à 2017. Avec vous, nous évoquons la mémoire d'Albert Memmi, mort à Paris en mai dernier, dans sa 100e année. Habib Kazdarli, Albert Memmi était considéré comme un écrivain français, mais il était né à Tunis et lui-même s'est toujours vu d'abord comme un Tunisien adopté par la France. Comment comprendre cette position singulière ?
Évidemment, chronologiquement, il était Tunisien, juif et ensuite français. Dans une conversation avec Edmond Flegg, en arrivant en France en 1956, en se posant, s'interrogeant, donc il lui a dit « Soyez les trois en même temps, vous devez les porter ». Enfin, il se fait une mission de porter les trois strates de sa formation, à la fois tunisienne, juive et française.
Alors il faut dire qu'Albert Memmi était né dans le ghetto juif de Tunis en 1920, il y a donc 100 ans, c'est la Hara. Son père était bourrelier, sa mère était berbère et analphabète. C'était donc une famille finalement très ordinaire de la Tunisie de cette époque qui était, vous le soulignez dans vos travaux, une Tunisie très cosmopolite.
Oui, c'était l'autre dans la société tunisienne d'avant la colonisation. Donc il y avait les musulmans et les juifs, ensuite auxquels, avec la colonisation, vont s'ajouter d'autres communautés méditerranéennes, notamment les Siciliens, les Maltais, ensuite les Français en tant que colonisateurs, mais qui étaient déjà bien présents en tant que négociants en Tunisie. Donc c'était une société cosmopolite, mais dans un système colonial.
Et alors cette société cosmopolite, il l'a très bien décrite dans son premier livre qui s'appelle « Statut de sel » et qui a été d'ailleurs préfacé, excusez du peu, par Albert Camus.
Oui, c'était une découverte donc pour les Juifs déjà. Donc c'était ils se découvrent en dehors des frontières. Donc on parle d'eux en dehors des frontières tunisiennes grâce à la langue française. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette élite des jeunes des milieux issus du quartier pauvre de Tunis. Donc, socialement, c'est un quartier pauvre, mais qui va avoir la chance de à travers deux actions. Tout d'abord, l'action de l'Alliance israélite universelle, parce que il va fréquenter l'école de l'Alliance. Tout d'abord, donc une institution privée française, mais qui va développer cette action de culture et d'enseignement auprès des communautés juives de la Méditerranée. Donc ça va lui faire accéder, par la culture, par l'enseignement, à changer de statut. Et ensuite, il va fréquenter le lycée Carnot de Tunis, duquel il va obtenir son bac.
Habib Kazdarli, on sait que Albert Memmi portait un regard plutôt sévère sur la période de la colonisation française, qui d'une certaine façon lui avait peut-être fait perdre sa première identité, puisqu'il portait un nom français et non pas un nom hébraïque, comme son père eût voulu qu'il le portât. Mais en même temps, il semble qu'il n'appréciait guère la décolonisation. Pourquoi ?
Il n'appréciait pas la décolonisation, non, je dirais que tout d'abord il a dressé un très beau tableau du tableau donc dans son côté méchant, le colonisateur, donc dans son livre le deuxième après Statut de sel, portrait du colonisateur suivi du colonisé, donc d'ailleurs c'est ce côté-là qui le rapprochait du Tunisien musulman, donc le fait d'être tous les deux opprimés sous la situation coloniale, parce que comme vous venez de le dire, l'employé municipal avait refusé le nom que voulait donner son père, donc à son fils. il ne voulait pas que le nom du juif. Donc il était dans ce sens anticolonial.
Mais dans « Juifs, Tunisiens et Français », c'est un texte publié en 1994 dans la revue universitaire Confluence Méditerranée, il écrivait « On n'en a jamais fini avec son pays natal. Nous souhaitons réintégrer la mémoire collective de la Tunisie, que notre place historique, économique et culturelle y soit définitivement reconnue et assurée. » N'est-ce pas une réponse finalement à Habib Bourguiba qui, en 1956, décrivait la Tunisie comme une nation essentiellement arabe et musulmane ?
Mais essentiellement, vous le dites, mais pas totalement, au contraire. Et lui-même, Albert Memmi, avait collaboré dans le journal d'Habib Bourguiba, qui s'appelle L'Action, qui était dirigé à l'époque par Béchir Ben Ahmed, l'actuel directeur de Jeune Afrique. Et il décrit toute cette ambiance dans le roman Le Pharaon. Il était dans cette, avec une place à part en tant que juif, mais en même temps commune aux intellectuels de l'époque, avec Béchir Ben Ahmed, avec Ben Smaïl, avec Masmoudi. Et nous apprenons dans le journal qui a été édité par Guy Dugas il y a 3 années, il s'appelle L'an 1 de l'indépendance, qu'il avait aspiré. Nous savons maintenant qu'il voulait être, à l'époque il était encore de nationalité tunisienne, d'ailleurs il ne va devenir français qu'en 1973, et qu'il voulait représenter l'État tunisien en tant que conseiller culturel dans une ambassade à l'étranger.
Mais peut-être que l'État tunisien lui-même, par la suite, n'a pas su faire une place à Albert Memmi et aussi à d'autres personnes issues de ces communautés qui n'étaient ni musulmanes, ni surtout arabes.
Oui, d'ailleurs, la preuve qu'à l'époque, en 55-56, il y a eu 2 ministres tunisiens de confession juive. Tout d'abord, Albert Bessis, c'est le grand-père de Sophie Bessis, donc la journaliste connue maintenant, et ensuite André Barouche. Donc, on peut dire qu'il y a eu cette tentative, mais finalement, pour beaucoup d'autres, par exemple, pour un intellectuel de son époque, Paul Sebag, duquel tous les deux ils étaient des enseignants au lycée Carnot. Donc il y a eu, pour beaucoup de jeunes de l'époque, juifs tunisiens, voulaient participer à cette Tunisie nouvelle, ce qu'on appelait la Tunisie nouvelle, mais le nationalisme, disons, les nouveaux chefs de l'État tunisien, issus du nationalisme tunisien, ils étaient un peu jaloux eux-mêmes de cette nation qu'ils voulaient la faire orienter pour eux uniquement. Bon, c'est d'ailleurs ce que dit dans le même texte auquel vous vous référez, dans Confluence, il dit « Toutes les jeunes nations sont jalouses, donc elles veulent se distinguer par une seule identité ».
Mais heureusement, Albert Memmi, au milieu des années 90, va avoir la joie et le privilège de voir son premier roman, « Statut de sel », intégré au programme de l'Institut supérieur des langues de Tunis, et cela apparemment à la grande surprise des étudiants.
En fait, à la fin des années 70 du siècle dernier, il y a eu Jacqueline Arnaud qui avait commencé par enseigner. Mais entre les deux, à la fin des années 70 et 90, donc il y a eu une interruption de 20 ans. Il a fallu que la génération qui avait suivi les cours de Jacqueline Arnaud, dont Samir Marzouki, Rabah Benachour, Habib Mallah, deviennent eux-mêmes professeurs 20 ans après. Donc ils intègrent l'université en tant que professeurs pour qu'ils intègrent certains essais de Albert Memmi. Donc cette période, disons, de silence avait fait que les jeunes Tunisiens donc retrouvent quelque chose qu'il était un peu passé dans l'oubli. Il y a une rupture au niveau de la mémoire, d'où la souffrance donc d'Albert Memmi. Il dit que lorsque nous revenons en Tunisie, on a l'impression qu'il y a une partie qui n'est plus là, qui a été oubliée. D'ailleurs, toute mémoire se définit par le souvenir et l'oubli. Et il y a eu un oubli. Donc c'est pour cela que lorsqu'on revient à enseigner le ghetto, donc il n'y a plus déjà de ghetto. Au niveau de l'espace à Tunis, la Hara, aujourd'hui les gens l'appellent Hafsiya, donc ils l'appellent plus Hara. Donc voilà.
Vous écoutez Orient Hebdo et nous sommes en compagnie d'Habib Kazdarli, professeur d'histoire contemporaine à la Manouba de Tunis, pour évoquer l'écrivain tunisien et français Albert Memmi. Habib Kazdarli, Un mot encore de l'histoire personnelle d'Albert Memmi. Il était né juif et berbère, mais c'était un laïc convaincu qui a épousé une Française de Lorraine, Germaine, avec laquelle il a traversé la vie. Peut-on dire qu'il était représentatif d'une certaine Tunisie, un pays qui a été punique, puis chrétien et enfin musulman ?
Oui, le parcours d'Albert Memmi a été celui de plusieurs intellectuels tunisiens. Rappelons Bourguiba, étudiant à Paris, il s'est marié avec son premier mariage avec une Française. Beaucoup d'intellectuels tunisiens donc sont mariés avec des Françaises. Donc, c'est le cas d'Albert Memmi, de Bourguiba et beaucoup d'autres intellectuels. Et d'ailleurs, une des missions du mouvement féministe en Tunisie, c'était d'envoyer des paquets aux jeunes étudiants, qu'ils soient musulmans ou juifs, pour les aider durant la période où ils sont en France pour qu'ils ne se marient pas avec des Françaises. Tawfiq Bakar, Salah Garmed et d'autres intellectuels tunisiens avaient épousé aussi des Françaises durant leur séjour en France.
Alors vous-même, vous avez consacré votre travail universitaire à toutes ces communautés de Tunisie qui ont forgé l'histoire du pays au fil des siècles, et en particulier donc à la communauté juive. Pourquoi cet intérêt ?
Parce que, en découvrant, moi-même j'ai fait ma thèse sur une partie oubliée de l'histoire du mouvement national, à savoir le rôle joué par les communistes. Ma thèse, c'était sur l'histoire du Parti communiste tunisien. Évidemment, le Dessour était de loin le parti qui avait joué un rôle important dans l'indépendance, mais en historien, j'ai vu qu'il y avait une occultation. Donc, je fais partie de cette génération qui avait fait ses études dans la Tunisie indépendante, qui avait souffert. À la fois, nous étions fiers de la modernité de Bourguiba, mais en même temps, de sa vision un peu partisane et des fois trop personnelle. Donc nous avons voulu, en tant qu'intellectuels, compenser cela, tout d'abord en donnant une ouverture à l'histoire nationale tunisienne. Le Dessour avait joué, le Parti nationaliste avait joué un rôle important, mais il n'est pas question d'oublier les autres, le rôle des communistes, le rôle des syndicalistes. De la même manière, au niveau des communautés, donc la Tunisie était plurielle. Dans la réalité, il ne faut pas qu'on la réduise à une seule communauté. Voilà, donc maintenant il y a 25 ans, nous avons développé des études à l'université où j'enseigne, l'université de la Manouba, en introduisant des cours sur l'histoire des différentes communautés. En premier, lorsqu'on parle des communautés dans une société à majorité musulmane, ce sont les Juifs. Et ensuite, tous ceux qui étaient venus, les Grecs, les Français, les Maltais, ce cosmopolitisme avec son contexte, le contexte colonial. De même que nous avons fait plusieurs colloques avec des Juifs tunisiens établis en France, et dans trois de ces colloques, ils ont été ouverts ou à la clôture, il y avait Albert Memmi avec nous.
Voulez-vous dire que la République tunisienne, en tout cas à ses débuts bien entendu, se serait bâtie sur le dos finalement de sa diversité bien réelle ?
Oui, il y a eu une tentative, mais malheureusement qui n'a pas beaucoup de grands noms avaient commencé par enseigner en Tunisie. Paul Sebag avait été un des fondateurs de l'université tunisienne, du département de sociologie. Lucette Valenzi était à l'école des hautes études en sciences sociales par la suite, mais au début elle avait enseigné ses recherches. Beaucoup de ces jeunes issus de la communauté juive avaient tenté d'enseigner à Tunis. Elle avait fait sa thèse même sur les fellahs tunisiens. Béatrice Lama, elle avait fait sur l'insurrection de 1864. Tous ces jeunes-là de l'époque, ils étaient anticolonialistes, mais la société, c'est-à-dire le nouvel État, les a donné une place, mais pas toute la place qu'ils voulaient. Donc c'est pour cela qu'ils ont fini par quitter et s'installer en France, mais sans jamais oublier la Tunisie.
Vous parliez de Béatrice Lama, personnalité à laquelle Orient Hebdo, notre émission, a consacré une émission récemment. Alors, le fait qu'il y a eu récemment, Habib Kazarli, un ministre du tourisme tunisien de confession juive, en l'occurrence René Trabelsi, dans le gouvernement de Youssef Chahed, et le suivant d'ailleurs, est-ce que cela indique que l'opinion publique tunisienne change ?
Vous savez que René Trabelsi, il a attrapé le coronavirus. Vous ne pouvez pas imaginer les gens depuis deux mois. Il y a un engouement pour avoir les nouvelles de René Trabelsi. Je signale, René Trabelsi fait partie de la communauté de Djerba et son père est le chef de la communauté qui organise chaque année le pèlerinage de la Griba. C'est une personnalité populaire, donc même certains étaient négatifs ou bien critiquaient le gouvernement Chahed, auquel vous avez fait allusion, mais en même temps, dans ce même gouvernement, le personnage qui sortait du lot, c'est René Trabelsi. Et beaucoup ont voulu qu'il continue dans l'actuel gouvernement. Donc au niveau de son action, c'est-à-dire il a les chiffres du tourisme pour 2019, on est revenu aux chiffres de 2010, c'est-à-dire 9 millions plus 9 400 000. Malheureusement, avec le coronavirus, il va y avoir une chute. Mais donc, l'opinion publique en général, non, il était accepté. Mais sauf qu'il y a parmi l'élite, et notamment les nationalistes arabes, pour des raisons idéologiques, qu'ils continuent à faire la confusion, disons, trouver un lien entre Israël et les Juifs de Tunisie.
Mais on a l'impression malgré tout qu'aujourd'hui, en 2020, la Tunisie moderne cherche à redécouvrir ses liens avec son passé multiculturel. Est-ce votre impression, Habib Kazarli?
En tout cas, ça fait 25 ans que j'enseigne cela avec tout un groupe. Notre laboratoire Régions et Ressources Patrimoniales consacre une partie des recherches et chaque année, nous participons à des activités de terrain à Djerba à l'occasion du pèlerinage. Au niveau de la jeunesse, il y a un engouement et de plus en plus avec la démocratie. Il y a une volonté parmi les jeunes à redécouvrir cette pluralité. Évidemment, on ne peut pas dire qu'elle est partagée par tout le monde. Je ne peux pas, comme dans toutes les sociétés. Il y a certains qui s'opposent, mais je vous dis, si vous ouvrez ma page personnelle, vous voyez, par rapport à Albert Memmi, lorsque j'avais mis un mot pour signaler son décès, ou bien à deux reprises, je donne des informations sur René Trabelsi, il n'y a que des gens, donc ça se multiplie en centaines pour prier pour sa guérison ou bien pour souhaiter, pour lancer des mots à la mémoire d'Albert Memmi. Donc, évidemment, je ne peux pas dire que je suis représentatif de tout le monde, comme dans toutes les sociétés démocratiques. Il y a certaines choses qui ne sont pas partagées par tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, il y a une volonté de la Tunisie d'aujourd'hui, dans l'ambiance de la démocratie, de redécouvrir tous les pans de son histoire, toutes les strates de son histoire.
Un dernier mot, si vous le voulez bien, concernant le français, qui semble être une langue qui est encore très pratiquée et très vivace en Tunisie. Certains intellectuels tunisiens disent d'ailleurs, nous on parle le français de Tunisie, comme il y a le français du Québec ou le français du Sénégal, voire le français de Belgique. Albert Memmi, lui, prédisait que le français allait disparaître du Maghreb au sens large. Est-ce que, par hasard, il se serait trompé?
Je pense que oui, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il faisait allusion à une époque où on avait arabisé par désir politique deux secteurs, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Mais sinon, dans certaines facultés, par exemple de la médecine, puisqu'on parle en ce moment de l'épidémie, etc., à 100% nos médecins sont formés en langue française ou bien les facultés des sciences. Même en histoire, par exemple, il n'y a pas de texte écrit, mais nous maintenons à hauteur de 40% de nos cours en français. Le reste en arabe, en Tunisie, c'est le bilinguisme. Et nous sommes fiers des deux. En tout cas, j'appartiens à cette génération de la Tunisie nouvelle qui voulait à la fois être fière de sa langue, je dirais pas maternelle, parce que ce qu'on apprend, ma mère ne connaît pas l'arabe littéraire, elle connaît plutôt le dialecte. Et au niveau du primaire, on apprend l'arabe, et jusqu'à nos jours, on apprend le français à partir de la troisième année de l'enseignement. C'est un des rares pays au monde donc, qui continue à pratiquer au sens le bilinguisme. Donc, mais j'avoue aussi que la démocratisation de l'enseignement avait fait aussi que une partie de la population, bien des jeunes, l'utilisation de la langue française au sens littéraire, etc., diminue. Donc il y a une certaine chute. Donc on peut dire que c'est dû aussi à la crise de l'enseignement lui-même.
Merci Habib Kazdarli.
Merci pour votre intérêt, à la fois pour Albert Memmi et pour la Tunisie d'Albert Memmi.
Vous êtes, je le rappelle, professeur des universités en histoire contemporaine, ancien doyen de la faculté des lettres et des arts et des humanités à l'université de Lamanouba à Tunis. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous. L'épopée.